Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3,
c'est fac.
Ça part ici.
On est de retour dans le 7, il est 7h16 actuellement, donc je suis en direct avec mon invitée du jour, Madame Evelyne Baudin. Bonjour Madame Baudin.
Bonjour.
Donc aujourd'hui, on va parler un petit peu d'itinérance ensemble, donc de tous les enjeux un petit peu, peut-être pas tous, mais disons des enjeux qui entourent l'itinérance. Donc pour débuter, je voulais faire un petit rappel. En fait, il y a un recensement du nombre d'itinérants à Cherbourg qui a été fait et qui démontre que depuis 2018, le nombre d'itinérants a augmenté de 51%. Donc vous, Madame Baudin, vous avez mentionné que la crise du logement ainsi que la pandémie sont les causes principales de cette augmentation. Pouvez-vous nous expliquer comment ces enjeux-là ont affecté l'augmentation d'itinérance dans la ville de Cherbourg?
Oui, tout à fait. Mais, alors, si on parle de... Si on regarde qu'est-ce qui provoque l'itinérance, puis qu'on regarde qu'est-ce qui permet à quelqu'un qui est en situation d'itinérance de s'en sortir, bien, dans les deux cas, on peut voir que souvent, ça va commencer dès l'enfance, là, que quelqu'un n'aura pas tous les outils dont il a besoin pour affronter la vie, si on le dit de cette manière-là. Donc, à l'enfance, à l'adolescence, c'est souvent des gens qui se retrouvent dans le réseau de la DPJ. Puis ensuite, la transition vers l'âge adulte, quand les services sociaux diminuent, là, quand les gens gagnent en âge. Tout ça, à un point ou à un autre, plus des fois des enjeux qui viennent s'ajouter, que ce soit des gens qui vont s'automédicamenter avec de la consommation, des gens qui vont vivre des épisodes traumatiques ou des problèmes de santé mentale. Donc, c'est vraiment comme un peu, si on peut dire, une démonstration là, qu'il y a certaines personnes qui passent entre les mailles du filet qu'on essaye de tisser comme société qui vont faire que certaines personnes se retrouvent dans une situation d'itinérance. Et ensuite, il y a tout le temps des intervenants et intervenantes sur le terrain. Comment ces personnes-là arrivent à guider les personnes en situation d'itinérance pour qu'elles se sortent de cette misère-là? C'est d'abord vers des logements de transition où il y a de l'accompagnement. Bien, d'abord, il y a les refuges, mais ensuite, il y a des endroits un petit peu plus permanents, comme des logements de transition. Ensuite, ça va être parfois dans des logements abordables qui sont à but non lucratif. Puis ensuite, peut-être, ça va être vers des logements traditionnels. Donc, le fait qu'actuellement, on vive une crise du logement, il y a un manque de logements abordables. Puis, c'est tout un système, c'est toute une chaîne. Donc, quand il y a un des éléments dans la chaîne qui est brisé, ça a un impact sur tout le reste. Donc, par exemple, si ça fait un certain temps que vous travaillez puis que vous voulez vous acheter une maison, mais que vous retardez votre projet d'achat de quelques années, bien, pendant ce temps-là, vous occupez un logement peut-être un peu plus luxueux, qui aurait été disponible pour quelqu'un qui était dans un logement moins luxueux, qui voulait améliorer sa situation, qui lui-même était dans un logement qui peut-être aurait été disponible pour quelqu'un qui voulait avoir un passé de logement avec accompagnement à un logement traditionnel. Donc, c'est toute une chaîne qui, selon moi, là, fait en sorte qu'on se retrouve avec une augmentation du nombre de personnes en situation d'itinérance.
Vous avez également mentionné que les programmes sociaux sont une responsabilité du gouvernement du Québec et que s'il veut de réels changements, il doit vous donner les moyens d'agir. Est-ce que actuellement, dans la situation d'aujourd'hui, vous considérez que vous êtes un peu bloqué et vous n'avez pas entièrement tous les moyens nécessaires en fait pour faire face à cette situation-là?
Oui, effectivement. Si on regarde qui gère la situation, qui intervient en situation d'itinérance, bien, il y a les organismes communautaires, que ce soit les lieux d'hébergement, les lieux qui, tu sais, les soupes populaires, les gens qui vont fournir les vêtements, la nourriture et tout ça. Donc, c'est beaucoup, il y a les organismes communautaires. Il y a les gens du CIUT, donc des intervenants, là, des travailleurs sociaux, des psychologues, etc. Puis, il y a les gens de la ville. Donc, nous, ça va être le service de police qui patrouille le terrain, qui est toujours sur le terrain, qui connaît les gens, surtout qui intervient si jamais il y a des altercations ou peu importe. Et on a aussi même, je vous dirais, carrément les cols bleus. à la ville qui vont, par exemple, se promener dans les parcs, découvrir des campements, trouver quelqu'un parfois qui est en situation de détresse puis qui va vouloir savoir comment intervenir. Donc, c'est vraiment un travail d'équipe de tout le monde. Et je vous dirais que c'est sûr que du côté de la ville, notre situation financière est très difficile. Nous, on aurait voulu ajouter des policiers spécialisés, si on peut dire, là, des policiers communautaires, mais on n'avait pas le budget pour le faire l'année passée. Donc, on en a ajouté, mais pas autant qu'on aurait eu besoin, d'une part. Du côté du CIUSSS, il manque d'employés qui fait de l'intervention. Nous, souvent, on va essayer de demander au CIUSSS d'intervenir dans certaines situations, puis des fois, on a de la misère à avoir des gens. Et du côté des organismes communautaires, ben là, c'est un sous-financement important, structurel, qui fait qu'ils ont de la misère à garder des intervenants à long terme, parce que c'est des situations, c'est des conditions de travail difficiles. Puis les salaires suivent pas tout le temps. Donc, le fait d'être sous-financé les fragilise beaucoup. Donc, c'est un peu tout ça, là, le manque au niveau financier actuellement.
Vous parlez donc de budget, de manque financier. Est-ce que vous avez des chiffres sur les montants et les aides que vous avez réalistiquement besoin pour agir et quels sont vos plans concrets si jamais vous aviez justement accès à ces fonds-là?
Ben, comme je vous dis, c'est pas seulement la ville qui aurait besoin d'avoir davantage d'argent. Moi, je vous dirais que s'il y avait une priorité, ce serait d'aider les organismes communautaires, là. Si les organismes communautaires pouvaient être solidifiés, après ça, là, j'ai pas le chiffre exact. Je sais que à chaque année, là, le milieu communautaire sort des chiffres. Puis comme on voit, tu sais, c'est un système au complet en réalité qu'il faut reconstruire. Si on ne fait qu'intervenir sur les personnes qui sont actuellement en situation d'itinérance, tu sais, c'est un peu comme essayer de vider un bain sans fermer le robinet. il faut qu'on s'assure de bâtir au Québec une société où on a plus de mailles dans notre filet. Moi, je crois pas vraiment à une situation où on se retrouverait complètement à zéro. Mm-hmm. Je pense qu'on est mieux de miser sur notre filet, donc on est mieux de viser un objectif où on a 100% de services sociaux pour tout le monde. Puis c'est ça qui va faire en sorte qu'on va diminuer le nombre de personnes en situation d'itinérance. Mais en ce moment, il faut aussi s'occuper des êtres humains qui sont en situation de détresse intense, notamment les personnes qui sont dans la rue. Puis pour ça, ben c'est sûr que ça va demander des fonds importants. Je ne pourrais pas vous donner un chiffre exact là, parce que c'est un réinvestissement massif finalement.
Oui, vraiment. Puis, je voulais rappeler un peu à nos auditeurs et auditrices qu'il y a eu un sommet de l'itinérance il n'y a pas très longtemps. Et justement, est-ce que vous pensez que ce sommet-là a eu un effet positif sur cette situation ou est-ce qu'il y a encore, évidemment, je pense que oui, mais est-ce qu'il y a encore des efforts à fournir?
Oui, c'est sûr qu'il y a des efforts à fournir, considérant, comme je vous dis, que c'est tout un système là, qui est à revoir. Quand même, je pense que le sommet sur l'itinérance, c'est vraiment un bon coup du milieu municipal dans un sujet où on n'attendait pas le municipal. Mmh. Tu sais, quand on parle du municipal, les gens, la première chose qui leur vient à l'esprit, c'est l'état des rues, c'est la collecte des matières résiduelles, les égouts et tout ça. Là, quand on voit des milliers de personnes du milieu municipal qui se mobilise pour demander au gouvernement d'intervenir dans un sujet comme celui de l'itinérance, je trouve que c'est une symbolique forte. Moi, je trouvais que l'objectif avait été atteint dès 8h30 le matin, avant même que la journée commence, parce que on voyait qu'il y avait dans une même salle des gens de services de police, milieu communautaire, des villes, il y avait des ministres, il y avait des députés. Donc ça, j'ose croire que ça a envoyé un message important au gouvernement, mais c'est sûr que les gouvernements même vont bouger quand ils vont sentir que la population leur demande. Il va falloir que ça se traduise dans des sondages où l'enjeu est identifié comme une priorité et où les gens demande qu'on en fasse plus, puis refuse le statu quo, finalement.
Oui, vraiment, je pense que c'est un sujet qui est tout de même très important et qui est nécessaire qu'on en discute, en fait, parce que bah, l'itinérance, c'est sûr que bah, c'est un sujet qui touche Sherbrooke, qui touche le Québec. Et puis, on en parle souvent durant la période d'hiver, par exemple, mais c'est sûr que les actions restent à faire et il faut vraiment les prendre en compte parce que bah, c'est nécessaire pour venir en aide à ces personnes-là. Pour conclure un peu, est-ce que vous avez des choses à rajouter ou à dire à la communauté étudiante sur ce sujet-là?
Ben, moi, j'aurais envie de dire à tout le monde que par vos études, en fait, parce que ben vous pouvez contribuer d'une manière ou d'une autre à faire du Québec une meilleure société. Tu sais, quand on voit une personne en situation d'itinérance, ça vient tout le temps nous chercher d'une manière ou d'une autre. Puis, je pense que ce qui vient nous chercher, c'est qu'on constate qu'on a échoué quelque part comme société. Donc, que vous soyez quelqu'un qui étudie en sciences sociales, donc en sciences politiques, en psychologie, en travail social, ou que vous soyez quelqu'un qui travaille même en génie ou en droit ou en administration, d'une manière ou d'une autre, vous pouvez contribuer à mettre une brique dans l'édifice, tu sais, des programmes sociaux, puis dans l'édifice de ce qu'on essaie de bâtir comme société. Donc, tu sais, demandez-vous pourquoi vous faites vos études, qu'est-ce que vous voulez offrir au Québec finalement, puis offrir le maximum parce qu'il n'y a rien de plus satisfaisant dans une job que de sentir que ce qu'on fait a du sens, est important, qui contribue à la société.
Oui, c'est certain. Puis je pense que donc on a besoin d'une réelle collaboration, partenariat entre tout le monde pour pouvoir réussir à pallier à cet enjeu-là. Et puis donc, comme je l'ai dit un peu avant et comme vous l'avez dit, à aider ces personnes-là. Donc écoutez, merci beaucoup Madame Baudin. C'était un plaisir de discuter de ça avec vous. Je pense que c'est un sujet qui est très important et que c'est important de le mettre sur le devant de la scène parce que c'est la réalité et c'est comme ça. Il faut qu'on arrive à trouver des solutions pour améliorer ça et peut-être trouver la solution pour pallier à ce problème-là, à la source de ce problème. Donc, merci beaucoup et c'était vraiment un plaisir pour moi de discuter avec vous.
Un plaisir partagé. Merci.
Merci
Bonne
beaucoup.
Bonne journée.
Bonne journée. Et quant à nous, on repart un petit peu en musique. On va parler de l'actualité de Sherbrooke. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ces derniers jours? On va parler notamment donc, d'un mouvement climatique. Donc, on se laisse en musique et on se retrouve juste après.